clés secrètes de l'univers. Dominique Desmichel et Michel Galliana Mingo.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Probablement que vous nous suivez depuis plusieurs semaines avec cette émission « Les clés secrètes de l'univers ». Vous savez, ce feuilleton cosmique, pourrait-on dire, qui nous emmène dans cet immense voyage dans le temps et dans l'espace, du Big Bang à nos jours, et qui est introduit par la musique que Stanley Kubrick a utilisée pour l'ouverture de son film datant de 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour ce long parcours, pour ce feuilleton, nous avons un grand éclaireur. Il nous prend par la main, il nous explique, il nous donne des images. Il s'agit de Michel Galliana Mingo, qui a publié un ouvrage que je vous recommande, « Les clés secrètes de l'univers », qui a donné le titre à notre émission et qui a été publié chez EDP Science. Michel, bonjour.
Bonjour.
Alors nous en étions la dernière fois au trou noir et puis aux courbures de l'espace et du temps. Et aujourd'hui, où est-ce que vous nous emmenez ?
Eh bien, je vous envoie dans un endroit mystérieux. Je vous envoie un peu dans les terra incognita. C'était Hubert Reeve qui parlait de cela, c'est-à-dire dans les zones où on pénètre des mystères que la science n'a pas encore élucidés. Et celui dont nous allons parler aujourd'hui, c'est celui de la matière noire. Eh bien, c'est une découverte qui a été faite dans la fin des années 70. Qui dit tout simplement que la matière que nous connaissons, les astres, les étoiles et même les trous noirs, toute cette matière que nous pouvons observer avec nos télescopes, c'est-à-dire une matière qui envoie de la lumière, hein, on observe tout ça grâce à la lumière. Lumière, il faut prendre le mot au sens large, c'est-à-dire que quand on parle de lumière, on parle de la lumière visible, celle que nous voyons avec nos yeux, mais on parle aussi de celle qui est invisible, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, les ondes radio, c'est de la même nature, il s'agit d'ondes électromagnétiques. Donc, lorsque je vous parle de la matière visible, il faut prendre cela au sens large. Les astronomes ont développé des yeux beaucoup plus sensibles que les nôtres, qui peuvent détecter toutes sortes de fréquences, comme je viens de le dire.
Et donc la matière noire est invisible.
Voilà, quand on observe les astres qui nous entourent, tout ce que l'on peut capter avec nos instruments, eh bien, nous allons voir que malheureusement, nous ne percevons que 15% de la matière qui existe réellement. Et les 85% manquants sont un mystère total. Alors, déjà, je vais parler un peu des prémices de cette histoire. Ça remonte à 1933. Un astronome très connu, qui s'appelait Fred Zwicky, observe un amas galactique, c'est-à-dire un très gros objet qui contient pas mal de galaxies, qui s'appelle la chevelure de Bérénice, un joli nom. Et dans cet amas, eh bien, il observe différentes galaxies qui sont liées par la gravitation, c'est-à-dire qu'elles tournent autour d'elles-mêmes, un peu comme dans le système planétaire, si vous voulez. Hein, les planètes tournent autour du Soleil. Eh bien là, les galaxies tournent les unes autour des autres dans cette chevelure de Bérénice, un amas galactique. Fred Zwicky dispose à l'époque déjà d'instruments qui lui permettent de mesurer la vitesse des galaxies. Et il observe que le balai de ces galaxies qui tournent les unes autour des autres est beaucoup trop rapide. C'est-à-dire que, comme il arrive à estimer la masse de ces galaxies, par leur lumière, hein, selon la luminosité, on peut estimer combien il y a d'étoiles et en calculer une masse très approximativement, eh bien, il découvre que ces étoiles, compte tenu de leur masse, ne peuvent pas tourner aussi vite. Elles devraient être éjectées. Alors, je vous donne un exemple très simple de cela. Vous êtes à la fête foraine, vous voyez un manège. Imaginez que ce manège se mettent à tourner de plus en plus vite et s'accélèrent jusqu'à 10 fois la vitesse. Eh bien, vous vous doutez de ce qui se passera à propos des personnes qui sont sur le manège. Elles vont être éjectées par la force centrifuge. Eh bien, c'est ce qu'observe Fred Zwicky. Il ne comprend pas que ces galaxies puissent rester liées les unes autour des autres et tourner à cette vitesse-là sans être éjectées. Et à l'époque, il ne sait pas pourquoi, il n'a pas d'explication. Sa découverte passe totalement inaperçue. D'abord parce qu'à l'époque, on connaissait très mal les galaxies. Puis l'autre chose, c'est que Fred Zwicky, qui était brillant comme astronome, avait un très gros défaut. Il avait un très mauvais caractère et il se mettait les gens à dos. Si on lui refusait des créneaux sur un télescope pour une expérience, il se fâchait et il avait toute une batterie d'insultes pour les administrateurs qui lui avaient refusé les créneaux. Par exemple, une de ses insultes, c'était « spherical bastard ». Ça veut dire « bastard » en anglais, hein, « bâtard », c'est une injure courante. Et pourquoi sphérique? Ben parce qu'une sphère, c'est symétrique dans toutes les directions. Une sphère, elle est identique, quel que soit le point de vue. Et donc, il disait, ben, c'est un bâtard, quel que soit le point de vue. Voilà le genre d'insulte qu'il proférait. Alors, vous imaginez que la fois d'après, lorsqu'il revenait pour demander un créneau sur un grand télescope, on lui refusait encore plus et il faisait encore plus d'injures, il proférait encore plus d'injures. Voilà, donc la découverte de Zwicky, qui aurait pu être historique, tombe complètement ignorée. Et puis c'est en 1977 qu'une brillante astronome femme, c'est une des rares femmes dans cette profession, Vera Rubin, observe le même phénomène, cette fois non plus dans un amas galactique, mais dans une galaxie. Elle observe plusieurs galaxies qui tournent. Vous imaginez la galaxie, la nôtre, la Voie lactée, c'est une spirale qui tourne sur elle-même.
Donc ça veut dire que, je vous coupe Michel, donc ça veut dire que cette matière noire, on en trouve dans les galaxies et on en trouve entre les galaxies, c'est ça?
On en trouve, pour être plus précis, on en trouve dans une galaxie et on en trouve aussi dans un amas galactique. Par contre, dans le vide entre les deux, il n'y en a pas. Mais c'est essentiellement, disons, avec nos connaissances actuelles, on peut dire que là où il y a de la matière visible, il y a aussi de la matière noire. Alors, Vera Rubin fait le même calcul, elle calcule la masse de ce qu'elle voit dans la galaxie, elle estime le nombre d'étoiles, elle multiplie par la masse moyenne d'une étoile, et elle estime la masse de la galaxie, et elle trouve que les étoiles dans cette galaxie, ces galaxies, tournent beaucoup trop vite, elles devraient être éjectées. Il y a donc dans la galaxie une masse inconnue qui les retient. Et cette masse manquante, c'est ce qu'on appelle la matière noire.
Donc si je comprends bien, c'est une histoire de gravité, quoi. C'est la gravité qui vient troubler les mesures, c'est ça?
C'est la gravité qui attire ces étoiles et qui leur permet de rester liées et de tourner les unes autour des autres sans être éjectées, alors que pourtant, elles tournent à une vitesse qui fait qu'elles devraient être éjectées. Il y a quelque chose qui les retient, et c'est de la gravité, comme vous le dites, Dominique. C'est donc une gravité supplémentaire qui retient les personnes qui sont dans le manège quand le manège tourne 10 fois plus vite. La gravité les retient. Alors, Vera Rubin arrive à chiffrer à peu près ce que représente cette matière noire, et aujourd'hui, on a affiné les recherches et on considère qu'il y a à peu près 5 à 6 fois plus de matière noire que de matière visible. Alors, c'était une découverte gênante. Encore que, quand on fait ce genre de découverte, il y a un aspect négatif et un aspect positif. L'aspect négatif, c'est qu'on est face à quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. Par contre, l'aspect positif, c'est qu'on est en train de découvrir quelque chose de nouveau. Et ça, ça appâte beaucoup les physiciens, les astrophysiciens.
Et alors la question qui vient, c'est, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne les voyait pas, hein, parce qu'elles n'émettent pas de lumière dans un spectre très large, comme vous l'avez précisé. Mais finalement, c'est quand même de la matière, il y a des particules là-dedans.
Alors, on ne sait pas ce que c'est. On a commencé par penser que, puisqu'il y a un décalage entre la masse qu'on peut estimer d'après la lumière et la masse réelle qu'on observe par ces effets d'inertie, on a commencé par se dire, mais c'est parce qu'on a mal estimé la masse des galaxies. Il doit y avoir des cailloux, des trous noirs, des étoiles éteintes, toutes sortes de corps qui n'émettent pas de lumière, des gaz, et on a dû mal évaluer toute cette masse sombre. Différentes expériences ont été menées, on a pris des endroits du ciel où on a vraiment mesuré très précisément la quantité de gaz qui existait, la quantité de trous noirs, etc. Et bon, force a été de constater que on était toujours très loin du compte. Finalement, ces corps obscurs ne représentent peut-être maximum quelques pourcents de la masse du total. Et nous restions donc avec cet écart énorme pour une tonne de matière visible, il y en a 5 ou 6 de matière invisible. Alors on en sait un peu plus maintenant parce qu'on arrive à observer non pas la matière noire, elle est parfaitement invisible, mais on arrive à observer ses effets. Vous savez, c'est un peu comme les trous noirs sont invisibles par nature, mais on les localise, on arrive à mesurer leur masse par les effets qu'ils produisent autour d'eux. Et en faisant ces études, on s'est aperçu que finalement, dans une galaxie, il y avait une espèce de halo invisible hein, de matière noire qui avait une forme sphérique. Vous vous souvenez peut-être que les galaxies prennent une forme de galette plate, hein, la plupart des galaxies. Donc la nôtre est une galette plate. Mais la matière noire, elle, ne se répartit pas dans une galette, elle se répartit dans une sphère autour d'elle. C'est ce qu'on appelle le halo galactique. Et c'est bien la preuve que cette matière est d'une nature différente, parce que la matière ordinaire visible tend à s'écraser sous forme d'un disque, alors que la matière noire se répartit sous forme d'une boule. Ça prouve bien qu'on parle là de quelque chose de différent. Alors vous me disiez, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est difficile de répondre. On pense aujourd'hui qu'il s'agit de particules qu'on n'a pas encore détectées, qui seraient des nouvelles particules, particules qui n'auraient pas d'interaction avec la lumière, c'est pour ça qu'on ne les voit pas et qu'on ne les verra jamais, mais particules qui ont une masse. Et c'est donc cette masse qui serait sensible et qui expliquerait la matière noire.
Michel, je vous arrête là. C'est l'heure de la fin. Bon, ben oui, je pense que les gens qui lisent un petit peu le journal connaissent un petit peu cette énigme-là. Donc, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Merci Michel, et merci et bravo pour toutes ces explications et cette mise en scène que je trouve tout à fait passionnante. Au revoir à tous.
Au revoir.